Ça va quand tu veux. Par contre, que je t'entende plus manigancer tous tes petits salamalecs, parce que sinon je te fais la totale. Hein. Souffrance, torture. Hein?
Vous avez pu reconnaître Elie Semoun jouant un prêtre inquisiteur dans la série d'Alexandre Astier, Kaamelott. Inquisition et hérésie, c'est le thème de notre interview du jour avec Isabelle Rosé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à Rennes 2, historienne du Moyen-Âge et plus précisément de l'Antiquité tardive au XIe siècle. L'université Rennes 2 accueille dans le hall de la BU l'expo Qatar, une idée reçue. Exposition réalisée en grande partie par les étudiants du master Monde médiévaux à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Une idée courante veut que dans les châteaux du Midi, des hérétiques appelés cathares auraient vécu à l'écart de l'église chrétienne, en élisant leurs propres évêques et en accomplissant des rites mystérieux. Mais du coup, qui sont ces cathares? Ou qu'est-ce qu'un cathare si jamais ils ont existé?
Alors, cathare, c'est un nom d'hérétique en fait. Et c'est un nom d'hérétique qui est développé dans des textes très anciens du IVe siècle, derrière lesquels on colle des éléments de doctrine, c'est-à-dire des croyances. Mais le paradoxe, c'est que ces cathares qu'on trouve donc dans des sources éparses sont en fait absolument pas dénoncés dans le Languedoc. Dans le Languedoc, on parle d'hérétique, mais on ne parle pas de cathare.
Mais d'où est-ce qu'il vient, donc, s'il n'est pas dans les textes du Languedoc, ce terme de cathare, d'où est-ce qu'il vient?
Alors, ce terme de cathare, en fait, est développé dans des sources qui n'ont rien à voir avec le Languedoc. La première fois qu'on le voit apparaître, en latin en tout cas, c'est dans un texte d'Augustin qui est un catalogue d'hérésies, donc il liste 88 hérésies. Parmi ces hérésies, il y a une hérésie qu'il appelle l'hérésie des cathares. Ensuite, le terme a l'air de disparaître. Et puis, on le retrouve au XIIe siècle, en Germanie, pour décrire des hérétiques qui sont dénoncés par un abbé qui s'appelle Egbert de Schönau. Et donc ce Egbert reprend, fait un magnifique copier-coller de ce que dit Augustin et le plaque sur les hérésies qu'il dénonce en Germanie. Et puis ensuite, ce terme réapparaît. Il va réapparaître en contexte parisien, dans un document universitaire, une somme. Et là, la définition des cathares commence à devenir un peu plus élaborée. Par exemple, on dit que ces cathares adorent les chats par derrière. Et on a donc des éléments sataniques qui viennent se greffer sur ces cathares. Et puis, un dernier texte qui les évoque, en Italie, au XIIIe siècle, c'est un texte de Régnier de Plaisance qui dénonce des hérétiques italiens comme cathares. Mais donc, dans tous ces textes-là, aucun ne vient du Midi.
Pourtant, il existe des textes qui, selon certains historiens, prouvent l'existence des cathares. Il y a par exemple des textes qui sont répertoriés, qu'on peut d'ailleurs voir à l'exposition, justement, ils sont illustrés. Il y a des textes qui ont été pris dans le fond ancien de la bibliothèque par vous et d'autres historiens pour illustrer l'exposition. Il y a par exemple une traduction en languedoc du Nouveau Testament, deux traités de théologie, trois rituels. Ces textes sont d'ailleurs souvent mis en avant donc, par beaucoup d'historiens qui défendent la thèse de l'existence d'une hérésie et d'une église bien installée dans le Languedoc. Qu'est-ce qui fait que c'est peut-être plus compliqué que cela? Et dans ces textes-là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, eux, pour montrer que les cathares existaient?
En fait, pas grand-chose. La première chose qu'on peut souligner, c'est qu'on a très peu de sources, en fait. On a 4 manuscrits en tout qui sont considérés, avec beaucoup de guillemets, comme des manuscrits cathares. Or, dans ces manuscrits, on n'aperçoit jamais le terme de cathare. Première chose. Deuxième chose, on ne sait pas exactement par qui ces manuscrits ont été réalisés. Et pour certains, on ne trouve aucun élément de dissidence par rapport à l'orthodoxie. La chose qu'on peut souligner, c'est qu'il y a des éléments de traduction de la Bible en langue vernaculaire. Donc il y en a un en particulier, le manuscrit de Lyon, qui en effet est reproduit sur un des panneaux de l'exposition, qui évoque donc une traduction du Nouveau Testament en occitan. Donc là, ce sera un manuscrit qui, en effet, viendrait des régions qui, d'habitude, sont considérées comme des régions cathares, avec beaucoup de guillemets. Et dans ce texte, il y a un rituel, le consolament. Et en fait, c'est ce rituel qui a été construit comme un rituel cathare, mais très tardivement, plutôt au XIXe siècle.
Qu'est-ce que c'est que ce consolament exactement?
Alors ce consolament, c'est en fait un rite d'imposition des mains qui est considéré par certaines sources, mais très tardives, et en particulier par les sources italiennes dont je parlais tout à l'heure, donc pas du tout dans le contexte du Languedoc actuel, comme un rite initiatique d'entrée dans la communauté hérétique. Mais quand on regarde de près ce rituel, tel qu'il est décrit, en particulier dans le manuscrit de Lyon, il n'y a pas grand-chose d'hérétique, en fait. Il y a quelque chose qui reprend des rites qui sont ceux de l'Église catholique, et donc on a l'impression plutôt d'une communauté en marge de ce qu'est l'Église officielle, mais pas franchement hérétique en termes de croyance.
Mais si ces cathares ou ces boni homines, comme ils peuvent être qualifiés parfois, ne t'étaient pas des hérétiques, qui est-ce qu'on a envoyé au bûcher, puisqu'il y a quand même eu une inquisition, une croisade contre les albigeois? Qui sont ces gens
Alors, c'est très difficile à dire, dans le sens où on a beaucoup de noms par les registres d'inquisition en particulier, mais ces noms sont difficilement identifiables. Quand ils sont identifiables, ce sont des notables. Et on sait que cette croisade albigeoise a eu une dimension politique importante, puisqu'elle a permis la conquête du sud de la France par la royauté capétienne. Donc, dans cette perspective, on peut penser qu'il y avait des enjeux politiques forts dans la croisade albigeoise et aussi dans les personnes qui ont été accusées d'être hérétiques et qui ont été envoyées au bûcher par les inquisiteurs.
Ça veut dire donc que l'hérésie a été inventée pour un but politique?
Disons que l'accusation d'hérésie qui est derrière ce type d'affaire est souvent une accusation politique, en effet, une forme d'instrumentalisation. Parce que l'hérésie médiévale est une manière de se débarrasser facilement d'adversaires. Et donc, comme elle a une dimension dénonciatrice, elle permet en effet de soit de conquérir un territoire, soit de prendre la place de quelqu'un dans la hiérarchie ecclésiastique. En tout cas, c'est une accusation facile. Mais contrairement à ce qu'on peut voir actuellement dans les accusations d'islamo-gauchisme, etc., ça ressemble un peu à ça. Mais la grosse différence, c'est qu'il y a derrière une machine judiciaire qui est construite pour combattre l'hérésie à travers l'Inquisition.
Le terme de cathare, pourtant, il est beaucoup réutilisé de nos jours. C'est presque même une fierté nationale. C'est un label pays cathare. Il y a les châteaux cathares qu'on connaît tous pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu... une marque presque et une fierté régionale, qu'est-ce que ça représente maintenant aujourd'hui?
Alors c'est devenu une forme de label de qualité pour la région Occitanie. Quand on arrive en voiture dans cette région, on entre en pays cathare, on se boit une petite bière cathare et puis ensuite on visite les fameux châteaux cathares. Mais donc il y a derrière une étiquette touristique qui s'est construite en effet sur cette image de martyr de l'Occitanie en quelque sorte et qui a repris d'une certaine manière le discours élaboré au 19e siècle qui a collé cette étiquette de cathare sur les personnes accusées d'hérésie en Occitanie.
Pour cette exposition créé par les étudiants de l'université Paul Valéry, vous avez ajouté à Rennes 2 des livres du fonds ancien de la BU. Qu'est-ce que ces livres donc apportent à l'exposition et comment vous les avez choisis?
Alors, ils apportent des images déjà, parce que ce sont de très beaux livres. On a des très beaux fonds à l'université Rennes 2 et puis ce sont des livres qu'on voit peu, parce que la plupart, enfin certains d'entre eux du moins, dans les vitrines très protégées, sont des ouvrages vraiment très anciens. Et donc on les a choisis pour illustrer d'abord... la manière dont il y avait eu une instrumentalisation de ce terme de cathare pour désigner les hérétiques d'Occitanie. Et puis on les a choisis aussi pour montrer qu'il y avait eu des formes de renouvellement dans cette histoire de l'hérésie. Et aussi qu'il s'agissait d'un point chaud de l'histoire médiévale. Ça fait un peu rire quand on dit ça comme ça. Mais c'est vraiment un endroit de débat qui oppose des écoles entre... des personnes qui sont partisanes d'une critique des sources, d'une remise en contexte de ces sources qui évoquent les hérétiques, et d'autres qui prennent leurs sources au pied de la lettre, souvent sans les critiquer, et qui donc prennent ces discours inquisiteurs en général pour argent comptant. Et donc l'idée c'était de montrer qu'il y avait des débats encore autour de cette question et de donner envie aux étudiants et étudiantes de Rennes 2 de lire ces ouvrages.
Il y a un autre livre qui est mis en avant aussi, qui ne vient pas forcément du fond ancien, mais moi je pense au nom de la rose,
ouais, tout à fait.
Que je trouve très intéressant pour comprendre tous les débats théologiques qui ont pu exister au Moyen-Âge. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose pour comprendre les hérésies à l'époque médiévale, ou pour les aborder en tout cas?
Oui, tout à fait, c'est un très bon livre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a choisi dans la vitrine. C'est un très bon livre, d'abord parce qu'il restitue assez bien la manière dont fonctionnent les savants du Moyen-Âge, même si on se situe en fait un peu plus tard par rapport à ce qui est décrit dans l'exposition. Et puis ce qu'il montre aussi, c'est la manière dont fonctionne la machine inquisitoriale, puisqu'on voit dans ce livre, le personnage de Bernard Guy, qui a vraiment existé, qui était un inquisiteur, qui a écrit un manuel pour expliquer aux inquisiteurs ce qu'ils devaient trouver, ce qu'ils devaient demander aux gens qui étaient accusés d'hérésie. Et donc, c'est un livre qui permet vraiment de comprendre comment naît une hérésie, d'une certaine manière. C'est-à-dire comment les représentants de l'Église, quand ils décident d'accuser quelqu'un, peuvent facilement le transformer en hérétique, même s'il n'y a pas derrière forcément de déviance de la foi très nette.
J'avais une dernière question pour vous. L'abbaye organisera le lundi 5 décembre, lundi prochain, donc à 17h, une visite guidée de l'exposition qui sera menée par vous et qui sera suivie d'un jeu de plateau intitulé « Qu'on les brûle ». Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ?
Oui, je vais revenir sur les différentes... Enfin, remettre en perspective cette exposition, expliquer un peu comme je l'ai fait ici, mais de manière un peu plus longue, comment est née cette exposition, et puis aussi comment on s'est mis à critiquer davantage les sources qui évoquent ces cathares du Languedoc. En fait, il n'y en a pas de sources qui évoquent les cathares du Languedoc, mais justement, on s'est mis à critiquer les ouvrages qui parlaient de ces cathares du Languedoc et comment on est revenu aux sources. Et donc, je vais revenir sur ce travail important des historiens à partir des ouvrages qui sont dans la vitrine et des panneaux de l'exposition. Et puis surtout, après, on ira, sous la forme d'une petite cérémonie, sortir le jeu qui a été créé par les étudiants de Montpellier. Et puis, on jouera. Donc, j'invite tous les étudiants et étudiantes du campus, enfin, peut-être pas tous, mais ceux qui sont intéressés, à venir découvrir cette exposition et puis jouer avec nous.
Et ben, on se retrouvera lundi pour jouer avec vous. Isabelle Rosé, merci beaucoup.
Merci à vous.
On vous rappelle que donc, vous pourrez jouer lundi prochain à l'ABU le 5 décembre à 17h. Et que l'exposition, vous pourrez la voir dans le hall de l'ABU jusqu'à début janvier, le 8, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Merci beaucoup.